bienvenue dans Popcorn, l'émission culturelle des 4e et 3e. Cette émission est entièrement consacrée au programme Erasmus et à son utilisation au sein du collège. En première partie d'émission, Madame Coulon, professeure d'espagnol et référente Erasmus au collège Jacques Prévert de Pontvalin, nous expliquera en quoi consiste ce programme et à qui il s'adresse. Nous écouterons ensuite les témoignages de Frédéric et de Virginie qui sont partis se former une semaine à Barcelone. Puis les élèves de 3e du collège Jacques Prévert et leur correspondant espagnol à propos de leur échange culturel entre la Sarthe et l'Andalousie. Très bonne écoute sur Radio Prévert. Bonjour, je suis en compagnie de Madame Coulon, la professeure d'espagnol, pour échanger sur le programme Erasmus. Madame Coulon, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce programme et ce qui le recouvre au sein du collège ?
Bonjour Marion. Alors, je suis référente Erasmus, effectivement, depuis que nous sommes accrédités Erasmus. Donc Erasmus, c'est un programme européen qui s'ouvre depuis quelques années, pas uniquement aux universités, mais dans les établissements secondaires, les collèges et les lycées, et qui nous donne l'opportunité chaque année de bénéficier de mobilité pour les personnels, tous les personnels, et pour les apprenants, en l'occurrence les élèves. Et ça peut même concerner le primaire si l'établissement est accrédité. Donc étant accrédité, ça veut dire qu'on n'a pas à refaire une demande de projet global pour le collège chaque année. Nous sommes accrédités jusqu'en 2027.
Comment ça se passe? Quelles sont les démarches à accomplir pour mener un projet Erasmus?
Alors un projet Erasmus, si on est personnel, on a focalisé au collège les besoins des personnels et les besoins se dirigeaient globalement vers la nécessité de monter en compétences linguistiques. Puisqu'il y a plusieurs possibilités pour les personnels, on peut partir en stage d'observation, ce qu'on appelle en anglais très couramment le job shadowing. Mais pour ça, si on va dans un établissement, que ce soit en Finlande ou au Portugal, eh bien on a besoin d'avoir des compétences, notamment en anglais. Pas forcément du pays où on va, mais des compétences en anglais. C'est pour ça qu'on a privilégié la montée en compétences linguistiques, et ça fait partie de notre premier objectif, Erasmus. Donc pour les personnels, cette première année et les quelques années suivantes, on va plutôt faire des stages de formation linguistique pour ensuite nous permettre ou d'assister à une autre formation dans un pays européen. Par exemple, si quelqu'un veut faire une formation autour de l'inclusion, une formation autour de théâtre et qu'il a pu développer des compétences en anglais, eh bien cela va lui permettre d'assister à des formations. Donc dans notre cas, cette année, nous faisons partir 6 personnels. Nous avons fait une demande pour 6 personnels et Erasmus nous a accordé effectivement les fonds. Pour l'instant, les deux premiers à être partis, c'est Virginie et Frédéric dans l'administration. Donc une fois qu'ils ont trouvé la formation linguistique qu'ils souhaitaient, ils ont d'abord fait un test de positionnement en langue, ensuite ils ont choisi l'endroit qui les intéressait, donc effectivement ils ont choisi l'Espagne, sur une semaine, et Erasmus couvre les frais de séjour, les frais alimentaires, les frais de voyage et la formation. Donc c'est pas uniquement les pays de l'Union européenne, on a aussi des pays partenaires de l'Union européenne. Par exemple, la Turquie fait partie des pays où on peut aller se former. Et on peut faire des échanges. Par contre, l'Angleterre, non. Voilà. Pour les élèves, donc, il faut qu'il y ait un professeur qui soit porteur d'un projet. La contrainte d'Erasmus, en fait, pour un porteur de projet, c'est qu'il faut effectivement justifier toutes les visites que l'on va y faire. Donc, l'idée d'Erasmus, c'est d'abord d'aller à la rencontre d'autres élèves européens. Donc, tout ce qu'on va faire à la marge d'être dans l'établissement, les visites que l'on peut faire, elles doivent être justifiées par un projet. Donc si par exemple il y avait le club robotique ici qui avait un projet de faire un échange avec un club robotique ailleurs, la justification de l'échange, elle est simple, elle va être autour peut-être de la création en commun de quelque chose. Et il pourrait être amené à visiter des choses autour de la robotique. Et peut-être augmenter la sphère d'action et aller vers le patrimoine, pourquoi pas, ou d'autres aspects scientifiques. Nous, le premier objectif d'Erasmus pour les élèves, c'est l'ouverture culturelle et linguistique. Donc là, on a choisi, vu qu'on a trouvé un partenaire espagnol dans le sud de l'Espagne, on est très proche du palais de l'Alhambra, et nous, ce qu'on avait proposé au départ, c'était une sortie en boise, donc on est autour du patrimoine UNESCO. Les élèves français et les élèves espagnols vont partir à la découverte du patrimoine autour de Léonard de Vinci. Donc c'est un projet qui s'appelle Voyage dans l'espace et dans le temps avec Léonard de Vinci et Boabdil. Boabdil qui va correspondre au palais de l'Alhambra en Espagne, à Grenade, dans le sud de l'Espagne, puisque nous allons en Andalousie. Et ce projet va nous permettre d'explorer la vie des deux personnages historiques, le contexte historique qui les entoure, une partie d'architecture, et puis on imagine une quatrième partie avec Boabdil et Léonard de Vinci qui viennent en 2025 visiter ce qui est le plus célèbre en Sarthe, c'est plutôt autour des 24 heures. Et dans la province d'Almería, en Andalousie, la raison pour laquelle elle est connue, c'est que c'est le seul désert européen. Donc on a aussi une résonance par rapport à ça. Donc les élèves vont travailler à se mettre en scène avec des petites vidéos. Et donc on a un programme virtuel qui accompagne l'échange physique. On a un échange virtuel, une mobilité virtuelle. Donc en fait on appelle ça de la mobilité hybride. C'est un des éléments qui a été important pour qu'on soit accrédité.
On est bien dans un système d'échange puisqu'on a des correspondants. Donc c'est vraiment la rencontre entre deux pays. Vous faites ça dans le cadre du club Erasmus ou au sein de vos cours d'espagnol?
Alors, c'est intéressant comme question. C'était ouvert à tous les élèves de 3e. Donc, tous les élèves de 3e ne font pas de l'espagnol. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert le club Erasmus. Alors, si ça avait été dédié à une seule classe, on aurait pu dire on fait un projet dans la classe et peut-être avec plusieurs collègues. Mais on a choisi d'élargir à toutes les classes et à tous les volontaires. C'est pareil, on a des élèves, on travaille aussi sur l'inclusion, c'est un des objectifs d'Erasmus, d'inclure. Donc on a un élève de 3e qui est aussi en Ulysse, Luigi, qui va participer au projet. Donc pour que tout le monde puisse assister en fait et créer ce projet et que ça prenne pas trop non plus sur le temps de cours. On a le club Erasmus, environ une quinzaine de séances à l'année qui nous permettent d'avancer sur le projet. Donc Erasmus, c'est une opportunité dont il ne faut pas hésiter à se saisir. Pour l'instant, on a des fonds européens qui permettent un budget beaucoup plus accessible pour les familles. Bon, ce budget va sans doute augmenter avec le temps si on fait partir plus d'élèves, forcément. Mais que ce soit pour les personnels et pour les élèves, la plupart du temps autour de Pont-Vallin, on est en zone de revitalisation rurale, ce qu'on appelle des ZRR, ce qui fait que tous nos élèves sont prioritaires en fait, sont par rapport à Erasmus. Donc ça a fonctionné aussi, ça a permis notre projet d'accréditation d'aboutir. Là, on a un projet de faire venir un expert en robotique de ce même établissement espagnol sur une durée d'une semaine pour des temps d'échange avec le collègue de robotique en France. Donc on va essayer de mener le mieux qu'on peut avec les compétences linguistiques qu'on a. Et puis peut-être plus tard, ça amènera le club de robotique à faire le pas et peut-être amener les élèves et à faire un projet virtuel et physique, d'échange physique grâce à Erasmus à l'avenir.
Merci.
Merci Marion.
Je suis en compagnie de Frédéric et de Virginie. Frédéric et Virginie, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites au sein du collège? Quelle est votre fonction dans le collège?
Alors moi, je suis assistant de gestion au collège. Voilà, donc je suis en service partagé, donc seulement 2 jours, les mardis et jeudis.
Quant à moi, je suis secrétaire de direction dans l'établissement.
Alors, vous êtes parti une semaine Erasmus à Barcelone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Je crois qu'il faut monter un dossier.
C'est ça. Donc, depuis la rentrée, hein, pour ainsi dire, on travaille sur ce projet. Donc, l'idée, en fait, c'était à nous déjà de trouver dans quelle langue on voulait partir, vu qu'on avait cette opportunité. Donc on est tombé d'accord tous les deux sur l'espagnol. Et après, l'idée aussi, c'était de trouver parce qu'on est vraiment indépendant, il faut trouver une école en fait susceptible de donner des cours en espagnol qui soit aussi agréée par Erasmus. Et à partir du moment où on a trouvé l'école, le lieu où on souhaitait aller, c'était à nous de trouver comment y aller et puis comment être hébergé sur place.
Ça apporte professionnellement ?
Oui, parce qu'en fait, ça a permis d'échanger. Donc, il y avait d'autres Français avec nous, mais pas forcément de la même région. Donc, on a pu voir un petit peu leurs pratiques. Ils n'avaient pas forcément non plus les mêmes taux d'effectifs, je dirais. Et puis, surtout aussi, ça a permis d'échanger avec d'autres pays. On avait des Polonais, des Allemands, des Hongrois, avec des systèmes éducatifs vraiment différents du nôtre. Et là, c'était vraiment très très riche, quoi. Donc, très très intéressant. À la limite, ce qu'ils ont un petit peu limité, effectivement, c'était la barrière de la langue, même s'ils parlaient très bien anglais. Malheureusement, mon anglais personnellement, c'est pas au top, mais on a parfaitement, ils ont vraiment su nous montrer, et nous aussi leur montrer comment on pouvait fonctionner. Donc, très enrichissant, oui.
Donc ça confirme ce que tu disais, on vient apprendre l'espagnol, mais on se perfectionne aussi en anglais, puisqu'on va parler. Du coup, on va devoir communiquer quand même en anglais. Donc, il faut avoir peut-être quelques bases d'anglais pour pouvoir partir en séjour Erasmus.
Oui, effectivement, c'est bien d'avoir quelques bases. Ne serait-ce que la plateforme Erasmus, déjà, est toute en anglais. Donc, là, c'est pas forcément évident. Mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que aussi bien notre référente Erasmus, donc qui est Madame Coulon, pour ne pas la citer, nous a vraiment bien aidé, bien aiguillé pour nous orienter vers le séjour et puis tous les documents qu'il faut envoyer, les contraintes entre guillemets pédagogiques, parce qu'on a quand même aussi un compte rendu à faire à la fin. Enfin, faut vraiment développer une espèce de projet un peu pédagogique entre guillemets, vu que nous on n'est pas dans ce domaine-là, mais. Voilà, il faut pas, c'est pas des vacances en fait, c'est pas on choisit un lieu et puis tiens on connaît pas. Non, l'idée c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, échanger au niveau professionnel sur des pratiques et puis aussi un petit peu de culturel, c'est réciproque en fait.
Frédéric, tu parlais de l'échange sur place avec les professionnels d'autres pays, mais vous êtes là aussi effectivement pour échanger avec les collégiens, donc sur ce que vous avez vécu, sur ce que les élèves éventuellement peuvent vivre s'ils font ce choix de partir avec Erasmus sur le temps du collège, mais peut-être après plus tard dans le cadre de leurs études.
C'est ça, l'idée c'est de leur donner peut-être un avant-goût du voyage, quoi. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu un peu l'esprit aventurier, mais il y a des élèves, ils n'osent pas bouger, ou pas forcément, c'est l'opportunité aussi de bouger, quoi. Donc là, c'est vraiment une opportunité de pouvoir partir comme ça, mais pas forcément à l'autre bout du monde, mais ne serait-ce que, rien que Barcelone pour la saison en été, c'est limite une semaine, c'était pas suffisant pour tout faire, et il y a vraiment plein de choses, quoi. Donc, on va essayer de leur montrer tout ça, essayer de transmettre un petit peu ce goût du voyage, en espérant les toucher un petit peu.
Effectivement, un séjour Erasmus, c'est un petit peu sortir de sa zone de confort, partir à l'aventure, c'est vrai, et découvrir et se mettre un petit peu en difficulté au niveau de la langue, au niveau de la culture, au niveau de l'organisation, puisque c'est nous qui organisons tout, comme Frédéric le disait. Ouais. Donc c'est aussi sortir de son train-train, de son confort, de sa zone.
S'ouvrir.
Il est vrai qu'on passait la matinée en cours, sachant qu'en Espagne c'est jusqu'à 14h30, donc il faut être concentré pendant toute cette période, et ensuite directement, faut déjeuner et on poursuivait notre journée avec des visites. Donc c'est vrai que c'est quand même une semaine qui est intense. C'est pas juste du repos, loin de là. On effectuait entre 10 à 15 km à pied par jour, hors transport interurbain. Donc c'est une vraie grosse semaine, mais très riche.
Certains monuments, on aurait bien aimé flâner encore un peu plus, quoi, rester plus longtemps, parce que c'était vraiment. On en prenait plein les yeux. Et aussi, une chose, on connaissait un petit peu déjà Barcelone. Mais certains monuments, on n'a forcément pas eu le temps ou l'occasion de les visiter. Donc là, on a découvert un petit peu des monuments un petit peu moins populaires, je dirais. Et là, c'était aussi, donc encore une fois, un nouvel enrichissement culturel, intéressant, aussi bien personnel et professionnel, du coup.
C'est vrai que partir à deux, c'était bien aussi. C'était bien aussi parce que ça permet d'échanger après les cours, de partager autre chose et de repartager encore plus en revenant au final, bah, parce que quelqu'un qui part seul, il n'y a pas cette notion. Il n'y a pas cette notion.
Ouais, de partage, oui. Donc, on partage les bons moments, et puis bah, forcément, il y a toujours des petits points de galère, mais ça fait partie, ce qu'il faut savoir, c'est, puis on le savait déjà d'avance, ça fait partie du séjour. Alors, on sait qu'il y a tout, voilà, au retour, l'avion, il avait une heure de retard, bon, bah, faut pas se mettre en mode panique, voilà, il faut... peut-être que quand on est seul face à ça, ou même dans l'aéroport, hein, c'est tout en espagnol sur place, on peut être un peu perdu, et le fait d'être à deux, ouais, ça peut rassurer un petit peu, effectivement.
C'est un séjour qui se construit seul, au final. Genre, en amont, on a travaillé effectivement avec Madame Coulon.
C'est ce que tu me disais un petit peu en amont, c'est vrai qu'à la fin, même pour nous, c'est un peu valorisant, parce que... bah, au début, on savait pas trop comment ça allait se goupiller, et finalement, on a réussi. Voilà, bon, on est parti, c'était que Barcelone, mais enfin, mine de rien, il y avait quand même quelques contraintes. Faut savoir qu'on a les réservations se sont faites un petit peu tardivement, donc forcément, les places étaient un peu limitées, ne serait-ce que pour l'hébergement, donc avec des coûts aussi qui, au fur et à mesure que le temps passait, augmentaient forcément. Donc, ça mettait un petit peu la pression par rapport à ça. Mais voilà, même pour nous, on est content de l'avoir fait, parce qu'on a réussi à le faire, et en plus, c'était trop bien.
Il faut dire qu'on est les premiers, on est les deux premiers à partir, donc c'était l'aventure complète. Maintenant, on peut aider, orienter nos collègues qui souhaitent faire de même.
Le fait d'être en immersion, vraiment au sein d'une école espagnole, pour le coup, notre professeur, par exemple, ne parlait pas du tout français. Donc, il parlait espagnol, évidemment, et anglais. J'avais un peu peur que le niveau soit trop élevé. Et finalement, le professeur s'est très bien adapté. Enfin, les cours étaient vraiment très, très bien construits, très intéressants. Donc, un séjour, trop bien.
Tu recommandes ?
Ah bah oui. Les yeux fermés, franchement. Ouais, je peux que recommander, effectivement.
Bonjour, je suis Madame Coulon du collège de Pont-Vallin, je suis professeure d'espagnol et référente Erasmus. Ravie que les premiers pas de l'échange franco-espagnol se mettent en place. Nous sommes récemment accrédités, c'est notre première expérience Erasmus, notre première grande expérience européenne d'échange avec Erasmus. Nous avions déjà de la mobilité à l'international, mais pas dans le cadre d'Erasmus, qui nous facilite considérablement les mobilités physiques. Donc le projet de cette année, c'est Voyage dans l'espace et dans le temps avec Léonard de Vinci et Boabdil autour du patrimoine de l'humanité UNESCO. Et à côté de moi, j'ai le plaisir d'avoir deux élèves espagnols qui sont avec nous, trois élèves français qui font partie de l'échange, et j'ai aussi Léo Cadia, notre collègue espagnol de Almeria, qui est aussi professeur de français. Et je vais laisser la place à Daniel, qui est espagnol, qui est élève avec nous, qui va se présenter en français.
Bonjour, je m'appelle Daniel, j'ai 13 ans. Je viens d'Almeria, qui c'est en sud, et je aime faire et jouer du jeu vidéo.
Hola, me llamo Lola, tengo 14 años, vivo en Pont-Vallin, y me gusta tocar piano y cantar.
Hello, my name is Antoine, I have 14 years old, I live in Pont-Vallin and I like to play tennis.
Hola, me llamo Juan, tengo 14 años, vivo en Montseny y me gusta videojuegos.
Je m'appelle Adriana, j'ai 14 ans, je viens de l'Espagne à Almeria, j'aime jouer la guitare.
Moi, je suis Léo, la prof de français qui vient d'Espagne, et je suis ravie d'être ici avec mes élèves et de connaître ces centres très intéressants.
Donc c'est une sacrée opportunité pour nous. Donc je rappelle, le projet est autour du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Donc nous avons une partie du projet qui s'est fait en amont, donc par des échanges virtuels. Et toute cette semaine, eh bien, elle a été ponctuée par des moments où les élèves ont été intégrés en classe, des moments d'échange pour travailler sur le projet et des visites. Donc la première visite, c'était au Mans. Donc on en a profité effectivement pour faire un rallye virtuel autour de la muraille qui est sur le point d'être classée UNESCO. Donc nous avons vu des choses là-dessus. Et puis nous sommes allés à Amboise visiter le château d'Amboise et le Clos Lucé de Léonard de Vinci. Donc nos marqueurs, nos accompagnateurs, nos points de référence sont Léonard de Vinci et Boabdil pour l'Espagne. Mais je vais laisser la place à Daniel qui va nous parler un petit peu en espagnol de ses impressions. Ça peut être sur les moments en famille, ce qui t'y a le plus plu, lo que más te ha gustado, et des moments dans les visites. Qu'est-ce qui t'a beaucoup plu dans les visites? Qu'est-ce que t'as découvert? Qu'est-ce que tu as aimé dans les classes? Lo que te ha gustado en las clases, lo que te ha gustado en las visitas, lo que te ha gustado en la familia. Et je vais traduire.
Pues a mí, sinceramente, empezando por la familia, me han tratado bastante bien.
Donc dans la famille, on s'est super bien occupé de moi.
Me han llevado a varias actividades. El fin de semana también hemos estado haciendo cosas, como ir, por ejemplo, a la bolera y así. Y también en la casa el ambiente era bastante acogedor. También agradezco bastante que le hubiesen dado la bienvenida a mi madre, porque también es un gasto extra. Y pues...
Ok, donc Daniel se sent vraiment... sent beaucoup de gratitude pour la façon dont il a été accueilli. Il a été accueilli avec sa maman également. Donc il a une fragilité qui fait qu'il doit être avec sa maman. Donc il a été accueilli dans la même famille. Il a adoré les activités qu'il a fait le week-end, dont le bowling par exemple. Et il a vraiment apprécié l'atmosphère d'accueil dans la famille. Et toi, Adriano, qu'est-ce que tu as apprécié dans ta famille?
Yo agradezco mucho. La acogida fue genial. Las actividades que hicimos los fines de semana, como ir a manejar los coches, y me pareció genial, y hasta el momento me la estoy pasando muy bien.
Donc il remercie Adriano également beaucoup de sa famille d'accueil. Il a apprécié tout ce temps passé avec eux, et vous avez eu l'occasion de faire du karting et de conduire des petites voitures. D'accord. On va passer un petit peu au temps de visite. Qu'est-ce que, Lola, par exemple, tu as le plus aimé dans les visites? Donc Léla, qui est élève française de l'échange.
Moi, j'ai bien aimé le musée des 24 heures. On a bien rigolé. Les Espagnols, ils sont tous gentils.
Ok, on va te laisser réfléchir à ce que tu as beaucoup plus. Effectivement, on a imaginé que Léonard de Vinci et Boabdil, en Espagne, ces deux visiteurs des deux pays, venaient en Sarthe en 2025. Et effectivement, qu'est-ce qui rend la Sarthe célèbre dans le monde entier? C'est bien le musée des les 24 heures du Mans. Et c'est également la muraille romaine, hein, qui est sur le point d'être classée UNESCO. Et toi, Antoine, qu'est-ce qui t'a marqué le plus?
Eh bien... J'ai adoré la visite du musée. J'ai redécouvert les expositions, même si je les avais fait l'année dernière. Et le château d'Amboise aussi, il était très beau. Et puis, grâce à la guide, on a pu connaître toute son histoire et puis ce qui s'est passé dedans.
Est-ce que tu peux dire concrètement un exemple de ce que tu as appris au château d'Amboise?
Eh bien, qu'il y avait eu le Henri VIII qui avait été... qui avait vécu dans ce château avec sa famille, et puis il a fait beaucoup de choses dedans.
D'accord, on y l'a rénové, c'était Charles VIII, mais c'est très bien. Et Louane, toi dans les visites, qu'est-ce qui t'a impressionné?
J'ai beaucoup aimé découvrir le château, son histoire et l'architecture aussi, que j'ai beaucoup aimé. Les tableaux, les meubles aussi, tout ce qui était un peu ancien.
Qu'est-ce qui t'a interpellé dans l'architecture? Peut-être la pierre, tu peux nous rappeler la pierre qu'on retrouve beaucoup plus à Amboise de construction?
Je crois que c'était une pierre faite beaucoup avec de calcaire, je crois.
La pierre de tuffeau qu'on retrouve quelquefois un petit peu dans le sud Sarthe. Dans les paysages, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé hier? Adriano, ¿qué es lo que te ha gustado en los paisajes de ayer, por ejemplo? ¿Qué te ha llamado la atención?
Que el río, que es muy grande, hermoso, y desde el punto de vista del castillo se podía ver una gran cantidad de cosas como los puentes, las casas, y el paisaje muy bonito.
Ok, donc Adriano, ce qui l'a beaucoup impressionné, c'est la Loire emblématique des châteaux de la Loire. Donc nous avions auparavant travaillé sur les repères géographiques et le fait depuis que le château d'Amboise est en hauteur pour des raisons de fortification et de défense, effectivement, on a un point de vue de combien de kilomètres déjà ?
25.
25 kilomètres, on arrive à voir à 25 kilomètres tous les horizons et le château est effectivement connu pour cette vision panoramique. Et toi Daniel, qu'est-ce que te ha gustado en el paisaje d'ayer?
Pues me gustó bastante la naturalidad que había, como por ejemplo el río, los árboles, la hierba. Se veía que estaba cuidado y que era pues natural.
Donc Daniel, il est très impressionné par tout ce qui est nature, beaucoup d'eau au niveau des rivières. Il a mentionné l'herbe et on va expliquer un petit peu pourquoi, tous ces aspects naturels. Et quelle est la grande différence finalement entre les paysages que vous observez maintenant et les paysages qu'on pourrait voir à Almería? ¿Cuál es la diferencia entre lo que vimos ayer, lo que están viendo en Francia y Almería al nivel de paisajes, de naturalidad?
Pues,
de naturaleza, perdón.
Pues, sinceramente, yo veo Francia como un sitio mucho más rural, con muchos animales, con más variedad. En Almería no está eso, por ejemplo.
Ok, donc ce qui l'interpelle, puisqu'on est dans un monde rural, ils n'ont pas trop l'habitude, là où ils habitent, de voir des animaux, de voir beaucoup de vert, donc ça les impressionne de visiter ce monde particulièrement vert. Adriano, ¿qué te llama la atención entre el paisaje de Almería, al nivel de humedad, de nivel de agua, las diferencias entre Francia y España?
Sí, cada una tiene sus cosas bonitas en sí. Y a mí me parece que en Francia algo excepcional es como dijo mi compañero, que había más animales salvajes, bosques, algo que se podría encontrar en Almería, pero no en gran cantidad como acá. Entonces, sí es. Y además también en Almería somos desierto. También los desiertos tienen cosas bonitas, pero ver árboles y verde y agua, ríos llenos, es hermoso.
Donc Adriano est très impressionné par effectivement tout ce vert, tous ces fleuves qui sont pleins, qui sont remplis. Effectivement, il a beaucoup plu et il fait le parallèle avec Almeria qui est connu pour être le seul désert en Europe puisque nous avons 300 km² de désert. Donc il dit que c'est très très joli d'avoir le désert, mais de voir du vert partout, des arbres bien garnis, des fleuves qui ne sont pas asséchés comme Almeria, c'est très très impressionnant ici, c'est ce qui les interpelle le plus. Les Français qui ne connaissent pas encore l'Espagne mais qui vont y aller, vous les avez entendus se présenter tout à l'heure dans plusieurs langues. On a parlé un petit peu en français, en espagnol et en anglais, parce que c'est ouvert aux germanistes, aux hispanistes, aux anglicistes. Donc, toutes les langues pour Erasmus. Comment vous imaginez le séjour en Espagne? Quelles sont vos attentes un petit peu? Qu'est-ce que vous savez déjà que vous allez un petit peu voir? Quelles sont vos inquiétudes, peut-être? Est-ce que, Lola, tu aurais des idées?
Moi, ce qui va me changer, je pense beaucoup, c'est les habitants. Parce qu'on a regardé, ils sont 35 000 là-bas. Alors que nous, on est 1800 à Pont-Vallin, donc ça change. Et puis eux, vu que c'est pas un collège, c'est le collège et le lycée regroupés, ça va être une autre chose, une autre tournure.
Effectivement, puisque nous allons dans un établissement de 1300 élèves, donc avec le collège de Pont-Vallin, ça va être une très très grande différence. Antoine, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé dans ce qu'on a préparé un petit peu sur l'Espagne, toute cette période à l'Andalous, raccrochée à l'Alhambra? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de voir ou c'est quelque chose de très abstrait pour toi?
Moi, j'aime bien l'architecture et puis ça va être très intéressant vu que c'est pas du tout la même culture que chez nous. Et oui, aller dans une zone urbaine alors que nous, on est dans notre campagne avec pas grand monde à côté de nous, et ça va changer et puis ça devrait être sympa.
Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ce mélange de cultures du passé qui fait qu'on a une architecture marquée par la présence arabo-musulmane, l'Alhambra? Qu'est-ce que tu as retenu de ça un petit peu dans ce qu'on avait fait?
Eh bien, moi, ça me plaît parce que c'est j'aime bien le passé. Et puis, savoir qu'on a encore des éléments de nos ancêtres qui sont autour de nous, c'est intéressant. Et puis, ça nous permet de mieux apprendre comment ils vivaient.
Ok. Louane, toi, qu'est-ce que t'attends? Comment tu envisages le séjour en Espagne? Qu'est-ce que t'as envie de voir? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Ou alors, quelles sont tes craintes?
J'aimerais beaucoup voir les paysages, parce que ça change, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de végétation, mais du coup, je pense qu'il fera quand même chaud, alors que là, il pleut souvent.
Quoi concrètement dans le paysage qui t'attire, hein? Qu'est-ce qu'elle va être la grande nouveauté?
Surtout le beau temps, je pense.
Ok, donc c'est pas tant dans le paysage, c'est plutôt la météo.
Oui.
Une météo un peu plus clémente. Donc on va avoir à un moment donné une visite d'une plateforme solaire dans le désert, puisque un des objectifs d'Erasmus, c'est le développement durable. Donc on travaille aussi cet aspect-là. Et Lola voulait ajouter quelque chose.
Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une crainte. Mais je sais qu'en Espagne, ils sont beaucoup en retard sur la pollution et que les fois où j'y ai été, c'est sûr que c'est pas pareil. En France, on se plaint de la pollution, mais en Espagne, c'est pire. Les poubelles, tout déborde des poubelles, il y en a partout, quoi.
Alors, c'est pas forcément partout non plus en Espagne. Peut-être il y a un contexte touristique dans lequel tu étais allé, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver peut-être plus souvent, effectivement, dans les endroits qui sont très, très, très touristiques, ouais. Los españoles quieren añadir algo en sus impresiones? En el colegio, de pronto el horario, las clases, ¿qué les llama la atención?
A mí me llamó la atención la primera vez que vi el horario, que me parecía así súper grande, que iba a ser aburrido en sí, pero al estar en las clases uno no se aburre y algo habré entendido de las clases, pero... lo impresionante también que me gustó fue que había el almuerzo, ¿no? De una hora y media, más o menos, lo que no tenemos nosotros, pero sí, eso.
Donc Adriano est très impressionné par l'emploi du temps en France, puisqu'effectivement, nous commençons généralement à 8h30 et nous terminons à 17h, à l'exception du mercredi où on a seulement 3h le matin de 8h30 à 11h30. Et donc, il était très impressionné par l'amplitude horaire de l'emploi du temps français et le fait qu'on ait une pause d'environ 1h30 avec un déjeuner sur place. Parce que en Espagne, c'est totalement différent. Est-ce que, Daniel, en espagnol, tu peux parler de l'emploi du temps spécifique scolaire espagnol? Si nos puedes comentar algo sobre el horario de los españoles.
Pues que me parece un poco menos pesado en parte que el de Francia, porque como es todo de una, se pasa la hora al final como un poco más rápido, pero no digo que el horario de Francia sea malo, sino que pues un poco más de tiempo por un poco más de descanso, que tampoco está tan mal.
Ok, donc lui, il pense que le système espagnol, est, malgré les différences, offre des avantages, mais que le système français, il pourrait s'y adapter facilement. Donc Adriano répétait aussi qu'il a compris une bonne grande partie du système, des cours auxquels il a assisté. Est-ce que Leocadia, en espagnol ou en français, tu pourrais nous rappeler un petit peu l'emploi du temps du lycée en Espagne, à quelle heure on commence, à quelle heure on termine, et les grandes différences donc, avec le système français?
Et bon, on commence à 8h le matin et à 11h, on a une pause d'une demi-heure où les élèves mangent un sandwich, des fruits, des yaourts, mais ce qu'ils veulent. Et après, à 11h30, on reprend les cours jusqu'à 14h30. C'est de lundi au vendredi, et le même horaire, et on n'a pas cours l'après-midi, par exemple. Ils retournent chez eux, ils mangent à la maison, et c'est différent. C'est ça qu'ils ont noté ici.
Parfait. Est-ce que tu vois un avantage, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves très positif dans l'emploi du temps français?
Et je pense que l'emploi du temps français est différent, mais je préfère les nôtres. Parce que nous sommes plus habitués à être toute la matinée là-bas et pas l'après-midi ou le soir. Et les mercredis, seulement 3 heures. Et à l'école primaire, pas de cours les mercredis. Pour moi, c'est plus compliqué pour les parents, par exemple.
Mmh. C'est effectivement un aspect très, très important. Donc effectivement, la matinée en Espagne, c'est jusqu'à 2h30, en fait, hein, puisqu'ils ont... largement autant d'heures de cours que nous, mais c'est de 8h à 2h30, donc ça fait bien 6 heures de cours tous les jours, y compris le mercredi, avec une petite pause d'une demi-heure de 11h à 11h30. Donc et le repas, le déjeuner, hein, on n'a pourtant pas de décalage horaire avec l'Espagne concrètement, mais nous avons une pause déjeuner qui est un peu plus tard et qui est caractéristique de l'Espagne, ce qui offre ses avantages aussi, ce qui offre la possibilité à des activités aussi l'après-midi, qui permettent peut-être d'envisager beaucoup plus d'activités qu'en France, alors qu'en France c'est plutôt le mercredi après-midi que sont condensées les activités et le week-end. Donc c'est une piste à envisager. Donc je tiens à remercier la collaboration précieuse de mes collègues espagnols, Leocadia et Maué, et nous espérons effectivement que cet échange va se poursuivre dans la continuité et laisser place à de plus vastes échanges à l'avenir. Et je voulais dire aussi que du côté français, nous partons avec Monsieur Lusso, qui est professeur de mathématiques, et Monsieur Musique, qui est professeur d'espagnol, mais que c'est pas parce qu'il est professeur d'espagnol, on aurait pu envisager n'importe quel autre professeur. C'est ouvert à tout le monde. Pour les élèves, hein, Erasmus, les critères, c'est surtout d'accepter le principe de l'échange, c'est-à-dire d'accepter de recevoir quelqu'un à la maison, et d'accepter le principe de s'engager sur le temps du midi pour travailler sur le projet pédagogique, qui est, je le rappelle, Voyage dans l'espace et dans le temps avec Léonard de Vinci et Boabdil. Et merci beaucoup à Marion de nous avoir accueillis ce matin. Au revoir.
Au revoir. Goodbye. Adios.
Cette émission se termine. Merci à Madame Coulon, à Frédéric et Virginie, ainsi qu'aux élèves français et espagnols, Daniel, Adriano, Lola, Antoine, Louane et la professeure d'espagnol Leocadia, d'être venus sur le plateau pour répondre à toutes nos questions sur le projet Erasmus. Cette émission a été montée et réalisée par Marion Vendée. À très bientôt. Tous des îles qui sont Marcel,